ce 1er octobre, c'est évidemment la fête de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous avez sans doute écouté les nouvelles à 9h, il en a été question. À 7h ce matin, Monsieur Barbin, directeur des programmes et animateur de l'émission Soleil Levant, nous a fait entendre une œuvre avec Robert Hossein sur la vie de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est une des saintes les plus importantes de l'histoire de l'Église et pourtant l'une des plus simples, C'est la vie d'une petite fille, quoi, morte à 24 ans. Et pourtant, on songe à en faire un docteur de l'Église, et vous verrez pourquoi. En dépit des réserves de certaines personnes. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Elle s'appelait Marie-Françoise Thérèse Martin. Thérèse Martin. C'est un nom qu'on retrouve ici au Québec. J'ai déjà rencontré des Thérèse Martin. Il y en a beaucoup en France, car le nom de Martin est très répandu. Elle est née à Alençon, où j'ai eu la chance d'aller il y a déjà près de 50 ans. Elle est née là le 2 janvier 1873. Elle est née dans une famille chrétienne assez exceptionnelle, puisque son père et sa mère avaient tous les deux pensé se faire religieux avant leur mariage. Et d'autre part, ils n'auront que 5 filles, et sur 9 enfants, 5 filles vivantes, les 4 autres étant décédées en bas âge, eh bien ces 5 filles vont toutes devenir religieuses, 4 dans le même Carmel, celui de Lisieux, ce qui est exceptionnel. Habituellement, on ne tolère pas la présence de plus de 2 sœurs de sang dans un cloître aussi fermé qu'un Carmel, où les religieuses ne sont jamais beaucoup plus que 23 ou 24. Après ça, bien, s'il y en a plus, elles fondent ailleurs. C'est pas comme les bénédictines qui peuvent être 50, 60 et même 100 parfois. Du moins, elles l'étaient il y a quelques années. Comme les bénédictins qui pouvaient atteindre jusqu'à près de 200 et même 300 moines, comme en Allemagne. J'ai déjà vu, en 1950, le monastère en France, c'est-à-dire en Belgique, où ils étaient un bon 120, n'est-ce pas, à l'abbaye de Maritsou. Alors, Thérèse Martin va bénéficier d'une formation chrétienne profonde, puis son désir de la vie religieuse va mûrir très tôt. Et comme j'ai beaucoup d'enfants, de toute façon, à cette époque, ça n'est rien de si exceptionnel. Et à un moment donné, on va parler de sa conversion, et ça existe chez des enfants, ça n'est pas exceptionnel non plus. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'une espèce de retour à Dieu après une vie de péché, non pas chez un enfant de cet âge, mais elle va considérer ça comme une espèce de miracle qui va la sortir d'une hypersensibilité, d'une espèce de maladie des scrupules. Parce que la religion, parfois, chez bien des gens, certaines personnes, en tous les cas, les rend un peu scrupuleux. J'entendais à la radio hier, à Radio Ville-Marie, une femme qui se disait homosexuelle et qui se demandait si elle pouvait communier, bien qu'elle était parfaitement chaste et parfaitement pieuse, allant à la messe sur semaine. On s'est dit, mais que de scrupules, hein, c'est incroyable. Tout hétérosexuel et tout homosexuel qui est honnête avec Dieu peut évidemment s'approcher du très saint sacrement et recevoir le corps vivant du Christ ressuscité. S'il est en état de grâce, évidemment, s'il est en union avec Dieu. Alors, elle a cessé d'être finalement une toute petite fille pour devenir une véritable enfant et finalement une femme forte et même très très forte. Et cette force va se révéler dans son désir d'entrer au Carmel alors qu'elle n'a que 15 ans. Ce n'est pas absolument exceptionnel non plus. Moi, je désirais rentrer à Saint-Benoît-du-Lac à 12 ans, et puis, évidemment, c'était pas possible. Je serais bien rentré à 15 ans, il fallait que je finisse ma rhétorique à 17 ans. J'y suis entré tout de suite après, et puis, je ne suis pas un saint, je ne suis pas un être exceptionnel, mais absolument pas. C'était comme ça, à cette époque, il faut bien se mettre ça dans la tête. Ça n'a rien d'exceptionnel. Elle n'a que 15 ans. Beaucoup de gens entraient à cet âge-là, à l'époque, en religion, avec des permissions spéciales, évidemment. Alors, les autorités à l'époque, surtout le prêtre qui s'occupait du Carmel, le trouvaient ça beaucoup trop jeune. Il s'y oppose. Ça ne la fera pas changer d'avis. Elle veut réaliser son projet, et elle obtient finalement l'autorisation. Et c'est dans cette communauté du Carmel de Lisieux, les Carmélites de Lisieux, vous savez que nous en avons des Carmélites à Montréal, près du métro Laurier. Quand vous vous sentez un peu triste, un peu lourd, un peu accablé, allez voir les sœurs qu'on dit tourières, celles qui ont le droit de parler aux gens de l'extérieur et qui nous reçoivent à l'entrée. Vous verrez là des femmes d'une telle joie, d'une telle pureté, d'une telle bonté, d'une telle intelligence, d'une telle gentillesse. Et vous pourrez assister à un office ou deux, à la messe même. Vous pourrez vous procurer aux besoins des œuvres de Thérèse de l'Enfant Jésus et d'autres choses. C'est un endroit où aller, à l'occasion, et c'est merveilleux. Les Carmels sont des sources de joie. Et alors donc, elle va vivre obscurément dans cette communauté. Et rien dans sa vie de carmélite ne laisse croire à des phénomènes mystiques stupéfiants, pas du tout. Elle n'a pas les espèces de charismes de Thérèse d'Avila, sa patronne. Parce qu'en France, on célèbre le patron de tout Français. Même les incroyants célèbrent leur fête le jour de la fête dite patronale, le jour de la fête d'un saint. Curieux, n'est-ce pas? Comme le christianisme est toujours là un peu, en surface peut-être, mais il est toujours là. Parmi la population française. Et alors, dans ce Carmel, elle va élaborer une spiritualité stupéfiante et pourtant très chrétienne, très puisée aux sources de l'Évangile et des Épîtres, qu'elle lit avec beaucoup d'intelligence. Et sa conception spirituelle va modifier la conception des rapports de l'homme avec Dieu, conception qui prévalait à l'époque, où on avait si peur de Dieu. On le croyait si juge, si sévère, si autoritaire, si exigeant, et même cruel. On a écrit des livres comme ça sur la cruauté de Dieu, dans le sens qu'on voulait transformer cette idée de la cruauté de Dieu pour découvrir tout son amour. Et vous verrez que cet amour, ça n'est pas simplement de se dire « Dieu nous aime, dans son sauton faisons tout ce que nous voulons ». Au contraire, Dieu nous aime, et comment ne pas répondre à cet amour? Comment ne pas suivre ses conseils de bonheur? Que sont justement les commandements de Dieu? Les conseils profonds qui viennent du fond de son cœur. Alors elle institue, on peut dire, la petite voie, le petit chemin, si vous voulez, la petite route, le petit sentier. Ce sera l'enfance spirituelle. Si vous n'êtes semblable à des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, dit notre Seigneur. Et en fait, quand on regarde bien l'œuvre de Thérèse de l'Enfant Jésus, et qu'on élague de sa mémoire l'espèce d'horreur qu'on peut avoir pour les choses apparemment mièvres, apparemment un peu doucereuses du tournant du siècle ou de la fin du siècle dernier dans le domaine des écritures religieuses, des textes religieux. Elle est redevable de son milieu, elle est redevable de son temps. Eh bien, quand on fait abstraction de ça, on découvre les choses les plus belles. Je vous en ferai la lecture tout à l'heure. Et c'est l'évangile donc le plus pur qu'elle va retrouver en s'abandonnant à Dieu, comme au plus tendre des pères. Un père qui a un cœur de mère. C'est finalement une spiritualité de la maternité de Dieu. Et les épreuves de toutes sortes ne lui ont pas été épargnées. Non, pas du tout. Elle a eu des désolations spirituelles, des désolations intérieures profondes, et même des doutes. Puis il y a eu des espèces de frottements aussi dans la vie commune. C'est pas facile vivre des femmes ensemble. Je me souviens, dans sa vie, elle s'occupe d'une vieille sœur qui est un peu acariâtre. Mais elle s'en occupe avec une telle tendresse que la vieille sœur change, peut-être une sœur un peu impatiente. Et surtout aussi, elle a des souffrances physiques énormes avant de mourir. Elle est morte, pourtant bien jeune, comme vous le savez, à 24 ans, le 30 septembre 1897. Il y aura 100 ans l'an prochain. Et on commence à travers le monde à déjà célébrer depuis quelques jours ce centenaire. À la demande de sa supérieure, qui était d'ailleurs sa sœur, elle avait rédigé ses mémoires. Vous connaissez ce texte, j'espère, qui parut d'abord sous le titre de « Histoire d'une âme ». Et c'était publié par la suite dans l'édition authentique Les Manuscrits Autobiographiques, que l'on retrouve imprimés même en livre de poche. Manuscrits Autobiographiques, ça vaut la peine de lire ça. Ne vous arrêtez pas, ce qui pourrait vous sembler un peu mièvre. Passez outre et allez au cœur des choses. Ah oui, vous y découvrirez des choses magnifiques. Comme un ananas. C'est piquant, un ananas. C'est pas très intéressant, mais à l'intérieur, c'est beau et c'est bon. Et alors, ça l'a fait connaître, ces manuscrits, bien au-delà du monde catholique. Il y a aussi une belle édition des manuscrits autobiographiques et des autres, de tous les manuscrits que je possède ici, qui sont des répliques authentiques, précises et exactes, exactement comme les cahiers de Thérèse l'Enfant Jésus. C'est absolument étonnant. Étonnant. Et alors, avant de mourir, elle a dit « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. » On connaît cette parole. Hein? « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre » et c'est ce qu'elle a fait. Les innombrables grâces qui ont été reçues de Dieu par son intercession montrent qu'elle a tenu sa promesse. Aucun saint, pas plus que le frère André, quand il disait « Je ne fais aucun miracle », il voulait dire que c'est Dieu qui les fait, c'est pas lui. Et c'est pas plus elle qui fait des miracles, c'est toujours Dieu. On sait que Thérèse a été béatifiée rapidement, et elle a été canonisée en 1925. Elle a été déclarée patronne des missions et patronne secondaire de la France. Dans un dernier livre, le dernier livre du père Bernard Brault, le père Bernard Brault m'a envoyé ça ces jours-ci. Ça vient tout juste de paraître. Thérèse de Lisieux, sa famille, son Dieu, son message. C'est paru chez Fayard. Très beau livre à couverture rouge, avec une charmante photo de Thérèse Novice. Avec son voile blanc. Elle est magnifique, son sourire tout jeune, une enfant de 16 ans. C'est adorable, c'est merveilleux. Et au dos du livre, on nous dit bien que Bernard Brault, qui est dominicain, n'est-ce pas, docteur en philosophie, qui était professeur aux facultés pontificales du Sauchoir, prédicateur à Notre-Dame de Paris, qui était responsable des émissions religieuses à France Culture, qui était couronné par l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Bien, on écrit au dos de son livre « La plus grande sainte des temps modernes », a dit le pape Pie X dès 1914 en parlant de sainte Thérèse de Lisieux. Et pourquoi elle, qui ne fut qu'une petite bourgeoise à la fin du XIXe siècle? Partout dans le monde, on célèbre le centenaire de sa mort. 1897-1910. D'Édith Piaf aux cinq derniers papes, elle a fasciné des millions d'esprits. Elle est sûrement la Française la plus vénérée sur la Terre. On retrouve son sourire, sa statue et ses roses. De Gardaï à Nouméa, de Tokyo à Beyrouth, d'Oslo à Aurangabad, de la baie du Tson à l'île de la Réunion, on la trouve partout. C'est la contemporaine de Rimbaud, de Marx, de Van Gogh, de Dostoïevski, de Freud, de Nietzsche, de Wagner. Elle n'a jamais cessé, elle n'a pas fini de déplacer les foules, de surprendre, sous des apparences absolument banales, mais elle égale ses génies. Elle répond à sa manière aux mêmes questions qu'eux. Et quelle est cette question? Pourquoi la liberté? Doit-on avoir peur de l'avenir? Et si Dieu n'existait pas? Pourquoi souffrir si l'on aime? Et d'abord, comment aimer? Et elle répond à cette question, comment aimer? On attend évidemment ces temps-ci qu'elle soit nommée docteur de l'Église. Ça peut sembler un peu exagéré. Moi, ça m'a semblé bien exagéré au début, mais plus j'y pense, plus il me semble que ce serait peut-être pas de mauvaise chose. Mais je réserve encore ma réponse. Bernard Brault, qui est familier des écrits puis de la prière de Thérèse de Lisieux depuis 50 ans, qui a été l'initiateur de l'édition critique de son œuvre depuis 35 ans, fondateur avec Mgr Guy Gaucher, un carme, évêque, puis les pères d'Écouvement et de Mester du groupe d'études des Thérésiens, propose dans ce livre une synthèse de la vie puis du message, et des intuitions, puis des paradoxes de cette sainte qui, avec Pascal, est sans doute le plus grand génie religieux de l'histoire de France. C'est ce que disent de plus en plus les gens. Le cardinal Renard, dans un beau petit ouvrage consacré à plusieurs saints, trois chrétiens adultes, le curé d'Ars, Sainte Bernadette et Thérèse de Lisieux, et qui était un homme profondément cultivé, le cardinal Renard. Eh bien, il raconte que si toujours les foules se pressent à Lisieux, si les biographies puis les études spirituelles se multiplient, eh bien, Sainte Thérèse, on peut se demander si elle a vraiment quelque chose à nous dire. Mais qu'est-ce que c'est qu'elle a de nous dire, à nous dire? Qu'est-ce que c'est? C'est la fille, comme on a pu voir, d'une famille chrétienne nombreuse. Elle était orpheline très jeune. Sa mère est décédée quand elle était toute petite. Et aujourd'hui encore, elle semble toujours témoigner du Christ Sauveur dans un climat épouvantable qui règne sur le monde actuellement, qui est oublié de la foi en Dieu, où ceux qui croient en Dieu semblent craindre de le dire, calmement et posément, et de témoigner de leur foi. Et en tout cas, on est oublié du culte des saints aujourd'hui. On a retiré de nos églises la plupart des statues qui étaient souvent bien laides, il faut l'avouer. Et aussi, les saints, bien, on voudrait les diminuer. Les remettre à la taille moyenne des hommes ordinaires. Une grande partie des saints nous dépassait, faut pas l'oublier. Parce que les saints, on les trouve un peu trop gêneurs, hein. Comme d'ailleurs les vicieux, hein. Il suffit de penser à cette anecdote absolument invraisemblable qui est survenue il y a quelques jours aux États-Unis où un garçon de 6 ans a embrassé une fillette de son âge en lui donnant un petit bec sur la joue. Il a été suspendu de l'école pendant une semaine. Harcèlement sexuel. On le considérait comme un petit vicieux. Mais c'est absolument invraisemblable, évidemment. Mais alors que penser des gens qui sont vraiment des bandits, des voleurs, des trafiquants de drogue, Des propagateurs de la pornographie. Des gens qui entraînent les femmes à la prostitution, etc. Ces vicieux-là sont très gêneurs, les saints aussi sont des gêneurs, et les uns et les autres sont embêtants. Ils troublent le jeu d'une espèce d'art de vivre que l'on appellerait l'art petit bourgeois, et pourtant, et d'un côté et de l'autre, ils méritent une attention qui est toute différente de celle qu'on leur porte. Il ne faut pas exagérer ni le don de soi, ni le scandale du péché. Aujourd'hui, on ne veut plus être gêné par ces gens-là. Être gêné par les grands trafiquants de drogue, on voudrait trouver des raisons dans leur enfance. On ne veut pas être gêné par les saints, on voudrait dire qu'ils sont un peu malades. On appelle ça le juste milieu. Il ne faut pas exagérer, dit-on. N'exagérez pas. N'adoptez pas des enfants handicapés, c'est trop lourd. Non, non. N'ayez pas de contact avec les gens qui ont perdu la tête. C'est exaspérant. N'en faites pas trop, vous travaillez trop fort. Vous ne devriez pas donner autant de temps à Radio Ville-Marie, vous risquez de tomber malade. N'ayez pas plus de 2 enfants. Vous allez être trop fatigué. Ne vous occupez pas de vos vieux parents. Vous risquez d'y perdre votre santé. Ne faites rien. Allez vers le juste milieu. Une vie moyenne. Finalement, est-ce que c'est pas une lente dérive vers la médiocrité, comme dit le cardinal Renard? Mais Thérèse de Lisieux, elle n'entend rien ces calculs-là. Elle a vécu la foi au Christ dès l'éveil de sa conscience, grâce à des parents qui l'ont présenté très tôt au baptême et lui ont livré le sens de Dieu puis de la prière. Souvenez-vous, elle a été guérie par l'intercession de la Sainte Vierge, la Vierge du sourire, une maladie de dépression qui menaçait sa vie d'enfant. Puis, elle n'a plus d'autre idéal que de répondre à l'appel du Christ qui la voulait au Carmel, et le Christ fait toujours signe à beaucoup de jeunes, même aujourd'hui, de le suivre de plus près. Et surtout, Thérèse, fidèle à l'Évangile et à l'Esprit Saint, elle a vécu, elle a livré ses sœurs carmélites puis au monde entier la voie d'enfance. Une voie d'enfance qu'il faut vraiment étudier pour la comprendre, sans jamais oublier que sœur Thérèse d'Enfant Jésus a voulu ajouter à son nom de la Sainte Face. Bien oui, la Sainte Face, Jésus adulte qui meurt, mais qui ressuscite. La sainte face que l'on retrouve sur le Saint-Suaire de Turin, qu'elle n'a pas connue, elle, c'est la sainte face de M. Dupont qu'elle connaissait. C'est sa sœur Céline qui connaîtra la révélation par la photographie, l'année après la mort de Thérèse, de la véritable face de Jésus sur le linceul, et qui en fera un dessin, et elle gagnera un prix à Paris, un prix d'art alors qu'elle est religieuse. Qu'est-ce que ce mystère total de Jésus que la voix d'enfance nous permet de découvrir? Mais ce mystère total de Jésus, c'est la rédemption des hommes, c'est-à-dire la libération de notre cœur pour nous livrer à l'amour. Et on pourrait dire que Thérèse de Lisieux est la vivante illustration du paradoxe de l'Évangile que la liturgie de l'Église lui attribue, les disciples de Jésus, qui sont portés par un désir de sainteté, ou peut-être la curiosité puis la vanité, lui pose cette question. Qui donc est plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus n'est pas un intellectuel qui se complaît dans le jeu facile. Sa réponse, il prend un petit enfant près de lui. L'enfant est faible, puis il dit qu'il faut devenir comme un enfant. Et Thérèse a bien saisi ça, ce noyau de l'Évangile, dans lequel le Christ, sans les abolir, a ramené toute la loi puis les prophètes pour les unifier puis leur donner leur portée. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, et c'est ça qui est important pour Thérèse. Et ton prochain comme toi-même, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et toute sa vie est basée là-dessus, comme nous verrons tout à l'heure, dans son acte d'offrande comme victime à l'amour miséricordieux de Dieu. Elle dit qu'elle s'offre comme une victime d'Holocauste à votre amour, miséricordieux. C'est en le 9 juin 1895, comme l'écrit si bien l'abbé Découvement, dans un ouvrage que je ne saurais trop vous recommander, mais qui coûte très cher, publié chez Novalis, Thérèse et Lisieux. Thérèse et Lisieux. Oh, c'est un gros volume, il y a près de 1000 photos dedans. C'est un volume absolument superbe, exceptionnel. C'est ce qu'il y a de plus beau, je pense, sur Thérèse, l'enfant Jésus. Alors, il est écrit le 9 juin 1895, en 6 page 238, on est arrivé au terme des 4 temps de Pentecôte, et pendant toute une semaine, bien, les Carmélites ont supplié le Seigneur de poursuivre dans son Église la fusion de l'Esprit-Saint. La veille, la liturgie rappelait le mot de l'apôtre Paul. « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. » Je tenais à vous lire ce petit texte de l'Épître aux Romains. C'est pour vous dire que la pensée de Thérèse de l'Enfant Jésus n'est pas puisée ailleurs que dans les Saintes Écritures. Le texte continue ici, et voici qu'en ce dimanche de la Trinité, au cours de la messe, Thérèse reçoit une lumière aveuglante. Dieu est une fontaine intarissable d'amour. Mais il est obligé de comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont en lui si les hommes, si les femmes ne s'ouvrent pas à ce débordement. Imprégnée par la pensée de Saint Jean de la Croix, Thérèse comprend de mieux en mieux que Dieu, vive flamme d'amour, vous connaissez ça, cette expression de Saint Jean de la Croix, il y a plusieurs siècles donc, au XVIe siècle, vive flamme d'amour. Eh bien, Dieu ne demande qu'à embraser les cœurs qui se livrent à cette fournaise. Ô mon Jésus, s'écrie Thérèse, que ce soit moi, cette heureuse victime, consumez votre holocauste par le feu de votre divin amour. N'ayez pas peur du mot holocauste, la pie victime. Ne les prenez pas dans le sens pénible. Prenez-les dans le sens comme un époux ou une épouse qui se livre à l'objet de son amour, son mari ou sa femme. Comme une victime, mais dans le beau sens du terme. Comme une fleur que l'on cueille dans un jardin qui devient une victime, mais on la donne. Mais à peine sortie de la chapelle, elle entraîne Céline, sa sœur, qui est étonnée, à la suite de Mère Agnès, son autre sœur, qui se dirige vers le tour, c'est-à-dire l'endroit où on peut communiquer avec l'extérieur. Le visage empourpré, elle balbutie qu'elle voudrait s'offrir comme victime à l'amour miséricordieux du Seigneur. Et là, la prieure, on appelle ça comme ça, hein, la prieure du Carmel, ne se rend absolument pas compte de l'importance que représente l'intuition qui vient d'envahir le cœur de sa petite sœur. Et elle lui dit, bien innocemment, bien sûr. Alors, ravie, Thérèse explique rapidement à sa sœur Céline, son autre sœur, de quoi il s'agit. Elle se met à rédiger son acte d'offrande, et le mardi 11 juin 1895, agenouillée dans l'antichambre de sa cellule, c'est la petite entrée de sa cellule, avec Céline, parce qu'elle n'a pas le droit d'entraîner Céline dans sa cellule. Dans un monastère, on n'a pas le droit d'entraîner quiconque dans sa cellule, sauf la maîtresse et novice ou la prière. Alors, ça se fait dans l'antichambre, c'est-à-dire à l'entrée même, hein, pour se parler, à l'occasion, c'est très rare. Et alors donc, le mardi 11 juin, agenouillée dans l'antichambre de sa cellule, avec Céline, devant la Vierge du Sourire, la statue, elle le prononce, son acte, du fond du cœur. En écrivant « Victime d'Holocauste », Thérèse exprime son désir le plus profond, c'est celui d'être totalement consumée par cette fournaise de l'amour divin. C'est ce qu'on voit dans les représentations parfois trop mièvres du Sacré-Cœur. Mais Georges Desvalières, dont je vous parlerai dans quelques jours, grand peintre chrétien, a fait un Sacré-Cœur absolument déchirant, où l'on voit vraiment le creux de l'amour du Christ, qui ouvre sa poitrine pour livrer son amour. Dans cette œuvre magnifique et un peu terrible, mais superbe, de Georges Desvalières. Et alors, à la différence des autres offrandes que l'on retrouve dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, la victime offerte en holocauste était entièrement brûlée sur l'autel des sacrifices. Thérèse désire être totalement plongée dans le feu de l'amour. Il y a 5 mois, le 21 janvier 1895, en jouant le rôle de Jeanne d'Arc, elle avait failli être brûlée vive. Et par suite d'une imprudence, les décors très simples de la scène se sont mis à brûler au contact de la flamme d'un réchaud qui était censé représenter le bûcher de Rouen où Jeanne d'Arc s'est fait brûler il y a bien des siècles. Alors Thérèse est restée calme et immobile au milieu de ce début d'incendie. Aujourd'hui, mais elle désire être consumée là, tout entière et pour de vrai, par les flammes de l'amour divin. Et sa vie va pouvoir devenir ainsi un acte de parfait amour. Cet acte est sur un papier jauni, il est bien conservé, j'en ai une reproduction précise ici. C'est très beau. Et dans la semaine, probablement le vendredi 14 juin, en faisant un chemin de croix privé dans le cœur, Thérèse est prise d'un si violent amour pour le bon Dieu, qu'elle se croit tout entière plongée dans le feu. Elle dit « Je brûlais d'amour et je sentais qu'une minute, une seconde de plus, je n'aurais pu supporter cette ardeur sans mourir. » Beaucoup de saints nous ont expliqué ça. On va nous dire, chez les psychologues, que c'est de l'hystérie, l'imagination, le fruit de la névrose, et patati et patata. Je pense à Carl Stern, un grand psychanalyste qui vivait à Montréal, qui voulait prouver que Thérèse d'Avila était une malade mentale. Il a étudié l'œuvre de Thérèse d'Avila, qui a aussi écrit son autobiographie, comme vous le savez. Il s'est converti, ce juif athée est devenu catholique, profondément croyant. Il s'est fait baptiser, je crois, chez les franciscains du boulevard René-Lévesque, où il m'arrive souvent d'aller à la messe. Et c'est là qu'il allait lui-même à la messe, près de la rue Atwater. Et alors donc, elle voit là-dedans le signe que Dieu a bel et bien accepté son offrande, puisqu'elle est comme brûlée. Elle croit prudent d'en avertir Mère Agnès, parce qu'elle se demande juste qu'est-ce qui se passe. Alors Mère Agnès, sa prieure, fait mine de n'y prêter aucune attention. Elle craint tellement que sa sœur ne s'engage dans des voies extraordinaires. Et le même sentiment chez Mère Marie Gonzague, son autre sœur, qui écrit à Thérèse que les blessures provenant de la vie communautaire ne présente pas les mêmes risques d'erreur que les prétendues blessures causées chez certaines carmélites par un dard mystique. Connaissez cette œuvre très, très baroque où l'on voit une sculpture que l'on retrouve à Rome, où l'on voit Thérèse d'Avila percée, transpercée par un dard que tient à la main un ange, un tout petit ange. C'est de ça qu'on veut dire. Parler ici. Alors, ce qu'elle préfère chez Thérèse d'Avila, ce sont sa gaieté, sa simplicité. Vive son tambour et son turlututu. Alors, Thérèse n'a aucun mal à rectifier ces propos-là. Elle, qui aime tant contempler la vie de foi, qui était celle de Marie à Nazareth. Alors, elle n'échangerait pas les 3 années pénibles qu'elle a connues lors de la maladie mentale de son père. Vous savez que son père a perdu la raison. Un jour, je vous ferai la vie de Louis Martin. C'est très beau et très touchant pour tous ceux qui ont pu souffrir de maladies mentales. Je vais vous faire une confidence, moi. Ma grand-mère maternelle a souffert de maladies mentales. Et mon père nous en parlait toujours avec beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse. Alors, elle n'échangerait pas, et vous ai-je dit, les 3 années pénibles qu'elle a connues lors de la maladie mentale de son père pour toutes les extases des saints. Et Thérèse ne fait aucune allusion à cette blessure d'amour dans son autobiographie, hein. Mais néanmoins, à la demande explicite de Mère Agnès, elle en reparlera le 7 juillet 1897, la veille du jour où on l'a descendue à l'infirmerie. Thérèse connaissait suffisamment la Bible pour savoir que qui ne devait jamais s'en tenir aux apparences. L'homme s'arrête au visage, mais Dieu, c'est le cœur qui le regarde. Je répète, c'est trop important. L'homme s'arrête au visage, mais Dieu, c'est le cœur qui le regarde. Mon pauvre fils qui n'avait pas fini sa deuxième année primaire quand je l'ai adopté, m'avait écrit ça. C'est le cœur qui compte. Un jour de la Saint-Valentin, m'a fait donner une carte. Mais elle avait compris, elle, Thérèse, que la charité ne doit point rester enfermée dans le fond du cœur. Jésus nous le demande, le flambeau de notre charité doit éclairer, réjouir tous ceux qui sont dans la maison. C'est pourquoi, disait-elle à ses novices, car elle a été maîtresse des novices toute jeune, oui. C'est pourquoi nous devons essayer d'avoir toujours un visage souriant. Moi, j'ai donc de la misère avec ça. Pareil, j'ai l'air sévère souvent. C'est pourquoi nous devons essayer d'avoir toujours un visage souriant. Le visage est le reflet de l'âme, disait-elle à Sœur Marie de la Trinité. Se laisser aimer et pardonner par le Seigneur, s'ouvrir au torrent d'infinie tendresse qui coule de son cœur, se laisser consumer par le feu de son amour, tout cela est fondamental dans la pensée de Thérèse. Évidemment qu'on mutilerait gravement ce qu'on appelle sa petite voix, comme je vous disais tout à l'heure, si l'on oubliait son désir de rendre au Seigneur amour pour amour. C'est l'amour pour amour. C'est un échange. L'amour ne se paie que par l'amour, dit-elle. Ce sont les seuls mots qu'elle ait écrits au-dessus de ses armoiries à la fin de son premier manuscrit. Autrement dit, Thérèse ne se présente pas toujours devant Dieu les mains vides. Elle a tout autant le souci de se présenter devant lui les mains chargées des fleurs de son amour. Elle écrit dans l'unique but de lui faire plaisir et de lui sauver des âmes. C'est ce qu'elle dit dans son acte de foi. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle se considère chargée de gagner la vie de ses enfants, les pauvres pécheurs. Elle voudrait tellement les rendre heureux, les libérer, les amener vers le cœur de Dieu. Elle est leur sœur, dit-elle. Elle est assise à leur table. Elle appelle sur eux, comme sur elle, le même déferlement des torrents de la miséricorde divine. Mais elle est aussi leur mère. Toute jeune mère chargée de gagner leur salut, par son amour sans défaillance. Et voilà où est l'amour chez Thérèse, un amour pour les pécheurs et un amour pour tout le monde. Et nous verrons tout à l'heure la suite de cette poursuite de l'amour. Alors, on a vu que Thérèse est pressée par l'Esprit Saint. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs à 22 ans. Elle écrit son acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Voici un bref extrait. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer, travailler à la glorification de la Sainte Église, en sauvant les âmes. Thérèse a compris qu'il lui fallait aimer Dieu et les autres, en montant. Elle veut tout donner à Jésus, au jour le jour, dans les petites choses. dans la prière, dans le silence, dans la mortification, dans son travail, dans les petits services rendus aux autres. Tout cela pénétré et animé par l'amour insatiable du Christ Jésus. Et Thérèse a bien visé. Elle a compris sa vie chrétienne selon l'amour envahissant et exigeant. Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Mais en même temps, et c'est normal, Thérèse fait la dure expérience de ses faiblesses et de ses limites et de sa pauvreté. Et elle dit quelque chose de merveilleux qui me console, moi, personnellement. J'espère que ça va vous consoler. Hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne et le grain de sable obscur. Alors, est-ce qu'elle va, à ce moment-là, quand elle écrit ça, est-ce qu'elle va abandonner? Est-ce qu'elle va rejoindre la foule des chrétiens moyens ou tièdes qu'on rencontre dans trop de vocations, malheureusement, comme dit le cardinal Renard, comme trop de chrétiens aussi que l'on rencontre en plein monde, chez les laïcs. La grâce du baptême en eux est comme c'est comme diminuée. Au plan spirituel, il y a aussi évidemment des gens plus ou moins grands. Il y a des gens qui sont de taille très moyenne. Ces gens-là ne donnent pas vraiment envie de devenir chrétiens. Il faut regarder vers les saints pour avoir le goût de devenir chrétien. C'est eux qui nous bouleversent, qui nous touchent. Thérèse, elle ne fait pas la maligne. Elle accepte d'être petite. C'est-à-dire qu'elle devient très humble, si curieux dans le paradoxe chrétien. C'est en devenant très humble que l'âme illumine. Elle accueille avec joie le mot de Jésus. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et elle écrit « Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis. » N'oubliez jamais ça, c'est très important. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne serait inspiré des désirs irréalisables. Le bon Dieu ne serait inspiré des désirs irréalisables. Je suis donc, malgré ma petitesse, aspiré à la sainteté. Elle l'a lu d'ailleurs dans le livre des Proverbes. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. C'est dans le livre des Proverbes, n'est-ce pas? Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a des belles choses qui annoncent le Nouveau Testament. Cette parole, d'ailleurs, ressemble à celle de l'Évangile. « Laissez venir à moi les petits-enfants. » C'est Jésus qui dit ça. « C'est à leur pareil, qu'appartient le royaume de Dieu. » Au lieu d'un escalier difficile et rude, elle va prendre l'ascenseur, comme elle dit. « Je désire être sainte, mais je sens mon impuissance, et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. » N'oublions jamais ça. Vous demandez à Dieu d'être lui-même notre sainteté. Elle accepte donc à la lettre là, cette belle parole de saint Paul que je vous cite souvent, « Je puis tout dans le Christ qui est ma force. » C'est le tout du Christ en réponse au rien de la créature. Elle sait les mérites infinis de Jésus mort et crucifié, victorieux du péché de Satan, et son amour débordant, son sang sorti de son cœur et qui se répand dans l'univers entier, qui est son âme pleine d'amour, d'un amour infini et éternel pour son Père, qui nous recouvre et dans lequel nous pouvons nous baigner pour ressusciter, nourri de la douce énergie de Jésus une énergie inépuisable, car Jésus nous aime infiniment. Mais c'est cette double et unique découverte de Thérèse, sa petitesse à elle et la plénitude d'amour de Jésus. Alors, ses mains vides sont ouvertes aux mains pleines du Christ. Et Thérèse aspire à aimer parfaitement Dieu et les autres, et elle bute à sa radicale incapacité, mais elle croit à l'immense sainteté du Christ, puis à son total amour miséricordieux pour elle. Et la petite voix de l'humilité est en même temps la grande voix, oui, la grande voix de la confiance et de l'abandon, comme une petite balle qui se laisse faire par Jésus. Elle accueille l'Esprit du Christ, comme des fleuves d'eau vive, comme il est dit dans Jean au chapitre 7. Elle s'est ouverte à l'amour. Elle devient capable de beaucoup aimer. De l'amour même du Christ en elle, et bien de beaucoup aimer le Père et les hommes. D'autant plus qu'elle a une piété d'enfant envers la Sainte Vierge. Chaque soir, elle priait avec le « Souvenez-vous ». « Souvenez-vous ». Belle prière. Alors, c'est une humilité sans confiance. L'humilité sans confiance, c'est le découragement. La confiance sans humilité, c'est de la présomption. Or, une seule vertu, sans sa complémentaire, mais c'est un péril, et Thérèse n'y tombe pas, elle. Elle a l'humilité, puis la confiance, les deux ensemble. La pauvreté évangélique, là, ce n'est pas de la désespérance. Non, ce n'est pas de la désespérance. Les mains vides de Thérèse ne sont pas des mains fermées. Elle veut, et elle sait par amour du Christ et de l'Église, ramasser une épingle, marcher pour un missionnaire, comme elle dit, vous connaissez probablement ça, ces détails-là. Hein? Ramasser une épingle avec amour, c'est sauver le monde. Préparer un repas avec tendresse, c'est sauver le monde. Moucher son enfant. Oui, avec un Kleenex, c'est sauver le monde. Si c'est fait avec amour, amour pour Dieu. Les petites choses. Comment ne pas rappeler son insistance à prier et offrir pour les prêtres, si de saints prêtres, qui ont le sel de la terre, montrent dans leur conduite qu'ils ont un extrême besoin de prière, que faut-il dire de ceux qui sont tièdes? Une sainte Thérèse n'a rien d'un quiétiste. Je vous parlerai de ça un jour. Le quiétisme. Elle souffre que des prêtres trouvent que les carmélites sont exagérés et devraient servir comme Marthe. Car ses mains vides de contemplative ne sont jamais inactives de sacrifice à faire dans l'abandon à la puissante tendresse de Dieu. Et les mains vides sont offertes. Oh, nous avons tous le sentiment d'avoir les mains vides. Que faisons-nous vraiment de notre vie? Combien de fois nous sommes découragés, nous avons l'impression que nos vies sont vides, vides. Mais on peut les remplir d'amour à l'exemple de Thérèse. Thérèse de Lisieux. Les remplir de cet amour qui transforme le monde. Et nous éviterons ainsi de tomber dans des excès de méprise. Il ne faut jamais oublier ce qu'elle dit, Thérèse. Avance, avance, réjouis-toi de la mort qui te donnera, non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. Car souvent, quand on cherche Dieu, nous tombons comme dans une espèce de néant. On dirait un philosophe révolté. Mais elle ajoute aussi, « Je ne veux pas en écrire plus long, j'ai peur même d'en avoir trop dit. » Que ce néant auquel elle a été confrontée l'a beaucoup bouleversée. Ne craignez pas si vous êtes dans la noirceur. La lumière est au bout du tunnel. Il y a de très beaux livres sur Thérèse et l'enfant Jésus. Je vous conseille donc celui que je vous ai mentionné tout à l'heure, qui vient de paraître, Bernard Brault, B.R.O., Thérèse de Lisieux, sa famille, son Dieu, son message, c'est Fayard. Il y a aussi de Jean-François Six, publié au Seuil l'an dernier, Lumière de la nuit, les 18 derniers mois de Thérèse de Lisieux. Il y a aussi Sainte Thérèse de Lisieux, La vie en images, que je vous ai mentionné tout à l'heure, par Pierre Descouvemont. Immense volume, un album où il y a plus de 900 photos en couleur, chez Novalis, ainsi qu'aux éditions du Cerf, paru l'an dernier. magnifique bouquin.